demander au Seigneur de bénir les moments que nous allons passer, bien sûr. Le pasteur qui est ici présent, merci au pasteur Mike Williams. Et nous allons prier pour sa santé, pour son dos. Vraiment pour le voyage en Israël qui se fera mardi. Roger et René partiront avec le pasteur, ce même thème, ainsi que tout un groupe de 21 personnes, avec le fils du pasteur, Paul. Oui. Eh bien, nous allons prier. Seigneur, merci Jésus pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de nous faire du bien, Seigneur, ce soir, au travers des chants et surtout au travers, Seigneur, de cette étude biblique sur l'Apocalypse. Nous voulons vraiment te remercier parce que tu vas nous instruire, tu vas nous conduire davantage à aller de l'avant dans ta parole et à réaliser toute l'importance qu'elle a pour nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es au contrôle de l'histoire. C'est ça que nous voulons savoir, que c'est que tu contrôles toutes choses. Nous voulons grandir dans la connaissance pour mieux comprendre cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Merci Jésus de bénir aussi le voyage, Seigneur, aller-retour vers Israël et tout ce beau voyage de ces 10 journées que nos frères et sœurs passeront là-bas en Israël. Merci Seigneur, réclamons ta bénédiction et ta protection au nom puissant et merveilleux que le tien. Merci Éternel. Amen. Et nous allons chanter tous ensemble. Ceux qui veulent, ils peuvent se mettre debout et nous allons chanter combien Dieu est grand. C'est vrai qu'il est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tout verront combien.
Son nom est tout puissant.
fierté, aussi un jour de joie. C'est un jour que le Seigneur a fait. Un jour que le Seigneur a fait et qu'il soit pour nous un jour de victoire. C'est un jour merveilleux, parce que c'est un jour où Dieu est présent avec nous.
Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes sauts, il me saisit et me délivre, l'éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec
Seigneur, nous voulons vraiment te louer, Seigneur, et t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as nos vies au contrôle. Tu as l'univers est en ton contrôle aussi. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons tout pleinement en toi, Jésus. Nous pouvons être pleinement satisfaits. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre. Merci, Seigneur. Et tu conduis ton Église. Tu conduis chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur, tu le soutiens Seigneur, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus de le bénir, Père. Merci Éternel. Oui, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur soit béni. Je vais laisser maintenant toute la place à Pasteur Mike Williams.
Bonsoir. Frères et sœurs, je suis content d'être avec vous de nouveau ce soir. Et nous allons de nouveau parler du livre de l'Apocalypse. Petit à petit, on arrive à la fin. N'est-ce pas? Nous avons passé plusieurs mois dans la grande tribulation. Ce soir, ce sera la fin de la grande tribulation, le dénouement. Nous allons regarder le chapitre 18 de l'Apocalypse ce soir. Et cela va nous montrer la chute de Babylone, la fin de l'empire, du royaume, si vous voulez, de l'Antichrist. La fois prochaine, Dieu voulant, nous parlerons de la grande bataille d'Armageddon qui met une fin définitive à la puissance du diable. Je propose de lire les trois premiers versets de ce chapitre. D'abord, donc, Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Comme nous l'avons vu la fois passée et la fois avant, la ville de Babylone, qui est depuis plusieurs siècles déjà une ruine, va être reconstruite dans la fin des temps et deviendra le centre commercial et politique de l'Antichrist. C'est de là qu'il règnera sur le monde. Donc, pas de New York, même pas de Bruxelles, mais de Babylone. Et Babylone est comparée et représentée, comme nous l'avons déjà vu, par une grande prostituée. Et dans la Bible, la prostitution, on en parle de temps en temps, la prostitution n'est pas seulement la prostitution littérale, mais c'est souvent la prostitution spirituelle. C'est-à-dire que quand le peuple de Dieu court après des faux dieux, Dieu compare cela. Dieu, c'est aussi grave. Et nous venons de le lire au verset 3. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de l'impudicité de Babylone. Toutes les nations, comme nous l'avons déjà vu, vont suivre l'Antichrist. Seul Israël, du moins pendant la deuxième partie de la grande tribulation, ne suivra pas l'Antichrist. Et cette prostituée qui représente Babylone, certains se demandent, est-ce que c'est littéral? Est-ce que vraiment il va y avoir une femme à Babylone ou est-ce que c'est seulement symbolique? Nous avons déjà vu que le diable, depuis toute son histoire, il est très peu inventeur. Par contre, il est excellent imitateur. Il imite. Et il voit toutes les choses que Dieu crée, toutes ces choses parfaites que Dieu crée, et il essaye toujours de prendre ça comme modèle. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons vu un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et nous avons compris qu'il s'agit là de l'épouse du Seigneur. Satan a vu ça. Il se dit, si Dieu a une épouse, si le Seigneur a une épouse, il m'en faudrait aussi. Et voilà la grande prostituée. Ésaïe dit, « Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute l'Église, toute la terre. » Qui est l'épouse du Seigneur? C'est nous, son Église, n'est-ce pas? L'Église est l'épouse du Seigneur. Paul écrit, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est ça que l'Église doit être. Je me demande parfois si elle l'est toujours, mais ça c'est une autre histoire, mais dans la volonté et le plan de Dieu, son Église doit être pure. Quel contraste avec l'épouse de l'Antichrist. Contrasté à la pureté de l'Église et l'impudicité de la grande prostituée. Un plus grand contraste on pourrait difficilement imaginer. À la fin de l'Apocalypse, ou presque à la fin de l'Apocalypse, nous le commenterons quand on arrivera au chapitre 21, mais Jean dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Nous allons voir quand nous arrivons au chapitre 21, l'épouse de l'agneau, ça va être quelque chose. Les sœurs parmi nous qui sont mariées, le jour de votre mariage, vous étiez jolies. Je ne dis pas que vous n'êtes pas jolies maintenant, mais je veux dire, vous étiez, n'est-ce pas, vous êtes fait le plus joli, n'est-ce pas? Ça, c'est normal pour un mariage. Mais comparé à la beauté et la splendeur de l'épouse de l'agneau, il n'y a pas de comparaison. C'est ça que l'Église va être. Le jugement de Babylone tombe au jour de l'Éternel. Nous lisons plusieurs expressions dans la Bible qui veulent dire la même chose. Parfois, le jour de l'Éternel, parfois le jour du Seigneur, c'est la même chose. Il s'agit de ce jour où, en un jour, le royaume de l'Antichrist sera tout à fait détruit. En un jour. Ça réfère à ce temps de dernier jugement, quand Dieu mettra fin à tout ce qui est péché, tout ce qui est diable, mettra fin. Il jugera. Et la Bible en parle. Ésaïe dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain. Quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, et on exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Joël dit, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Amos dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Et Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est clair. On n'a même pas besoin de le commenter. C'est clair. Et le résultat, ce que nous avons lu là au verset 2, elle est tombée
elle est tombée, Babylone la grande. Pour nous, c'est une réjouissance. Ça ne nous réjouit pas de savoir qu'un jour, d'ici peu, tout ce qui est mauvais, tout le mal dans le monde, ça va finir. Le monde actuellement attend, n'est-ce pas? D'ici quelques semaines, on saura si c'est M. Trump ou Mme Clinton qui va nous sauver. N'est-ce pas? J'ai l'impression que vous ne l'attendez pas trop. Non. Non, c'est pas M. Trump ou Mme Clinton. C'est notre Seigneur qui mettra fin à tout ce qui est mauvais. Et ce sera l'accomplissement littéral de ce qui a déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament. Quand Jean entend cet ange dire « elle est tombée Babylone la Grande », en somme, cet ange répète une prophétie du prophète Ésaïe 8 siècles avant Jésus-Christ. « elle est tombée Babylone ». C'est les mêmes paroles. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Et plus loin, il donne plus de détails. Babylone est prise. Bel est confondu. C'est un dieu de Babylone. En Israël, Bel s'appelait Baal. C'est le même. Merodach est brisé. Un autre dieu, faux dieu. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées. Car une nation montre contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Nous avons vu la fois passée, j'espère que vous vous rappelez, que, en somme, ce n'est pas Dieu qui détruit Babylone. C'est ceux qui suivent l'Antichrist qui se tournent contre lui quand ils voient que l'Antichrist ne livre pas ce qu'il a promis. À la fin, il patiente plus et son royaume est détruit par ses propres disciples, si vous voulez. Bien sûr, derrière, à l'arrière-plan, comme on l'a expliqué la fois passée, Dieu tient bien les ficelles, n'est-ce pas? Mais la pratique, ce n'est pas Dieu qui détruit Babylone. Babylone se détruit elle-même. Et ça, c'est le diable, ça. Hein? Aucune pitié, même pour les siens. Ils se détruisent. Le peuple du diable se détruise. Tandis que le peuple de Dieu s'aime. Quelle différence. Appelez contre Babylone les archers, ou tout ce qui part.
la grande tribulation, parce que eux aussi sont déjà enlevés. Alors, qui est mon peuple à Babylone? Eh bien, ça doit être les convertis de la grande tribulation qui, d'une façon ou de l'autre, ont su survivre. Ça ne va pas être facile. Quand l'Église est enlevée, il y aurait beaucoup de gens qui auront beaucoup de chagrin parce qu'ils ont manqué l'enlèvement. Qui sont ces gens? Des gens qui peut-être ont connu l'Évangile, mais qui ne sont pas restés fidèles. Des gens qui, pour un temps, ont suivi le Seigneur peut-être, mais qui sont retournés dans le péché. Ou des gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui s'en sont moqués. Et alors, ils vont se rendre compte qu'après tout, la parole de Dieu est vraie. Et que l'Église, comme prophétise la parole de Dieu, est partie. Et qu'ils ont manqué cet enlèvement. Et ceux qui sont sincères vont essayer quand même de trouver Dieu. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que le dimanche après l'enlèvement de l'Église, toutes les églises vont être pleines à craquer. Par des gens qui viennent chercher. Donc cette église ici, elle serait plus pleine qu'elle n'a jamais été. Je ne sais pas qui va prêcher le sermon, ce ne sera pas notre frère. Ça va être un problème. Mais il va y avoir énormément de gens qui se rendent compte. Ils savaient, mais ils n'ont pas réagi. Oui, ils se sont retirés. Et maintenant, ils vont vouloir chercher Dieu. Et comme Dieu est miséricordieux, ceux qui sont sincères et qui se repentent sincèrement, Dieu les accepterait, n'est-ce pas? Seulement, ils ont manqué l'enlèvement et vivent maintenant dans la grande tribulation. L'Antichrist va exiger qu'ils prennent sa marque, la marque de la bête. Et s'ils le prennent, ils sont perdus. S'ils ne le prennent pas, ils ne pourront plus acheter. Ils n'auront plus accès au service du monde. Donc, survivre ne va pas être facile. Beaucoup d'entre eux, nous l'avons déjà vu, vont être tués, vont être des martyrs. Mais certains vont quand même arriver d'une façon ou de l'autre à survivre. Et mon peuple doit sortir de Babylone. Doit s'écarter de cette ville, de ce système, pour être sauvé. Nous pouvons voir cela littéralement, et ici c'est certainement littéral, mais il y a aussi, n'est-ce pas, le principe spirituel qui est derrière, qui est valable aujourd'hui. Si nous voulons être sûrs de notre salut, nous ne pouvons pas marcher un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans les péchés du monde. Il faut se consacrer entièrement au Seigneur, ça c'est clair. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et n'est-ce pas ça l'appel de Dieu depuis toujours? Il a toujours mis son peuple à lui à part. Israël était un peuple à part. L'Église est un peuple à part. Nous n'avons rien à faire avec le monde, n'est-ce pas? Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous. Nous sommes différents, n'est-ce pas? C'est ça la volonté de Dieu.
Et l'ordre de sortir de Babylone ne doit pas surprendre parce que cet ordre est donné, mais de nouveau, c'est une répétition d'un ordre qui est donné prophétiquement avec les mêmes paroles dans l'Ancien Testament. Ésaïe dit, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Jérémie dit, fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Il faut vraiment qu'un enfant de Dieu se sépare du monde, littéralement, n'est-ce pas? Nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Et c'est un avertissement qui s'adresse aussi à l'Église. L'apôtre Paul écrit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et puis il pose quelques questions. Il ne donne pas la réponse à ces questions, mais la réponse est claire. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? De nouveau, Baal, ça. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est clair, hein? La réponse à chacune de ces questions, c'est il n'y a aucun rapport. Malheureusement, nous vivons dans un temps où certaines églises cherchent le compromis. Et qu'est-ce qui se passe quand cela arrive? Ce n'est pas l'Église qui convertit le monde, c'est le monde qui entre dans l'Église. Alors nous vivons de nos jours des églises, je ne dis pas cette église-ci, mais des églises qui acceptent l'avortement, l'euthanasie, le mariage, les homosexuels, etc. La liste est longue. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'église qui va dans le monde, c'est le monde qui vient dans l'église. N'est-ce pas? J'ai entendu, ou j'ai vu plutôt une illustration un jour, donnée à des enfants d'école de dimanche, pour expliquer cela. Et on avait un bassin avec de l'eau dedans et un bateau. Le bon rapport, n'est-ce pas, entre bateau et eau, c'est bateau sur l'eau. Si l'eau vient dans le bateau, on a un problème. Et le bon rapport, c'est l'Église dans le monde. Et si le monde vient dans l'Église, l'Église coule. Et malheureusement, certaines sections de l'Église aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Alors que la Bible est très claire, il n'y a pas de rapport. Donc, il ne peut pas y avoir un compromis. Et Paul ajoute, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est très clair. Le message prophétique n'est pas seulement une théorie, mais c'est quelque chose qui doit être mis en pratique aussi de nos jours. Et après le cri de triomphe de l'ange, elle est tombée, Babylone la Grande, suit la constatation, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et cela aussi est prophétisé dans l'Ancien Testament. Ésaïe dit, concernant Babylone, les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons,
Les autruches y en feront leur demeure, les boucs y sauteront, les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, ses jours ne se prolongeront pas. C'est clair. Et cela arrivera exactement comme il a dit. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Elle est tombée, Babylone. Nous l'avons déjà lu, ça, dans l'Apocalypse, chapitre 14. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et nous l'avons vu l'avant-dernière fois, je crois, c'est avec elle, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous avons déjà vu que Babylone est jugée à cause justement de son impudicité, aussi bien dans le sens littéral que dans le sens spirituel. Et le jugement de Babylone est aussi parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son Dieu. L'impudicité, entre guillemets, tout le système de Babylone est autour de nous. Nous ne pouvons pas l'éviter, nous vivons déjà dedans. À la fin des temps, ce système va s'intensifier, va devenir encore pire, mais déjà nous vivons dans un monde qui est impudique, qui est corrompu, qui est injuste, etc., etc., n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas l'éviter. Mais nous ne devons pas nous livrer avec ce monde et à ses impuretés. Nous pouvons choisir de nous mettre à part, de ne pas prendre part à tout. Toutes ces choses. La fin du mois, de ce mois, on célèbre, entre guillemets, ce que le monde appelle Halloween. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? S'il vous plaît? Oui, le mal, le diabolique, le démoniaque, et alors, il y a des chrétiens qui disent « Oh, c'est pas grave. » De mon temps, quand nos enfants étaient petits, s'ils ont fêté ça à l'école, je les gardais à la maison. Je refusais de les exposer à cela. Mais aujourd'hui, oh, ce n'est pas grave, c'est seulement un jeu. Seulement Dieu, ça fait partie de l'intensification de Babylone, n'est-ce pas? Et nous n'avons encore rien vu, ça on est sûr, hein? Le monde ne va pas aller mieux, malgré ce que promettent Madame Clinton et Monsieur Michel et tous les autres. Le monde ne va pas aller mieux, la Bible ne dit pas que le monde va aller mieux. Notre monde est malade, oui ou non? Très malade. Et c'est une maladie terminale. Il n'y a pas de remède. Mais on n'est pas obligé, et les rois de la terre ne sont pas obligés, de se livrer à l'impudicité de Babylone. Quand on fait cela, on le fait volontairement. On va dire, oui, mais c'est pas grave, et tout le monde le fait, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un Dieu qui est juste et qui juge. N'est-ce pas? Et ne pensons pas que on échapperait à son jugement. Si consciemment, connaissant la parole de Dieu,
on se livre à l'impudicité de Babylone. Si on le fait, et admettons-le, parfois on se laisse piéger. Personne parmi nous n'est 100% saint, nous sommes tous pécheurs, donc de temps en temps on se laisse piéger. Combien il est important de se repentir et de demander pardon, et de ne pas se laisser sucer dedans, séduire dedans. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Est-ce que Dieu est contre le luxe? Est-ce qu'il est contre la richesse? L'Église, pendant des siècles, a enseigné que le meilleur chrétien, c'est le chrétien qui est le plus pauvre. N'est-ce pas? Si on avait de l'argent, il fallait le donner, de préférence à l'Église. Mais c'est vrai, hein? Les membres étaient de plus en plus pauvres et l'Église était de plus en plus riche. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique. Peut-être au début c'était l'Église catholique, mais les protestants ne sont pas mieux. Quand on voit certains évangélistes qui ont des avions privés et que sais-je encore, est-ce que Dieu est contre le luxe? Non. Je suis sûr que le pasteur de cette église est très content d'avoir tous des millionnaires dans sa congrégation. N'est-ce pas? Surtout s'ils donnent leur dîme, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'amour de l'argent. Ça n'est pas la même chose. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, mais mon voisin est la puce. Hein? Moi, je voudrais être comme lui. Non, contentez-vous de ce que vous avez. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de l'argent, du luxe, de la richesse empêchait Lot de fuir Sodome. L'amour du luxe, de la richesse a été l'occasion, la cause de la mort de Achan. L'amour de l'argent a empêché le jeune homme riche de devenir le 13e disciple de Jésus-Christ. L'amour de l'argent a conduit à la mort d'Ananias et Saphira. Dieu n'est pas contre l'argent, et la richesse et le luxe. Je connais des chrétiens qui se sentent coupables s'ils ont de l'argent. Quand j'étais tout jeune dans le ministère, je roulais avec une très vieille voiture. Enfin, je dis je roulais. Je ne roulais pas beaucoup parce qu'elle était plus au garage qu'en route. Arrive un jour, dans notre église, une famille américaine. Lui, directeur d'une fabrique américaine. Chrétien, vient à l'église, s'implique à l'église, des gens formidables. Des gens qui ne parlaient pas le flamand, ils parlaient que l'anglais. Un jour, le frère me demande si j'irai avec lui, parce qu'il devait acheter une nouvelle voiture. Et il voulait que je traduise. Alors, je vais avec lui. Quand ils sont arrivés, il a loué une voiture, mais au bout de quelques semaines, il fallait qu'il achète une voiture pour lui. Je vais avec lui, et nous allons dans le garage Volvo. Bien, moi j'avais une petite Citroën
ami. Vous vous rappelez, un peu comme un deux chevaux, mais allongé, un ami 6. On va dans le garage de Volvo, alors je traduis, discute avec le vendeur, etc. Et puis, le moment arrive pour placer la commande. Et alors, je dois traduire. Et il dit au monsieur, il dit, je veux deux Volvo. Je n'avais pas traduit ça. Je me suis dit, j'ai pas bien compris. Donc je dis, ben, il dit deux Volvo. Oui, je veux deux Volvo. Un pour moi, il dit, et l'autre, c'est pour toi. Une nouvelle Volvo! J'étais jeune dans le ministère. J'avais toujours cette pensée qu'un chrétien devait être content avec le moins. Je dis, frère, je ne peux pas accepter. Je dis, il n'y a personne dans l'église qui roule avec une voiture comme ça. Et le pasteur, qui à l'époque n'était pas salarié par l'église, mais quand même, le pasteur roulerait avec une nouvelle Volvo. Je dis, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Peut-être une autre marque est plus petite. Non, frère, qui dit? Dieu m'a mis sur le cœur de vous acheter une Volvo. C'est soit la Volvo, soit rien. Je ne l'ai pas accepté. Essayez de faire la même chose maintenant. Hein? J'accepterai. Parce qu'entre-temps, j'ai compris. Dieu n'est pas contre. Comprenez, vous me suivez. Dieu n'est pas contre que ses enfants jouissent du luxe et de la richesse. Pourvu que, et ceci, c'est la condition, pourvu que l'argent qu'il nous confie, que nous le gérons pour lui. L'histoire des talents. Vous connaissez tous l'histoire, parabole des talents. N'est-ce pas? Si Dieu nous donne, que ce soit un deux chevaux, que ce soit une Volvo, c'est pas notre propriété à nous. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. C'est à lui. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants. N'est-ce pas? Ça, c'est bien. Et si nous gérons bien, qui sait, peut-être qu'il nous confiera plus. Mais aussi longtemps que nous nous rendons compte que ce n'est pas à nous, c'est à lui. Et nous, nous sommes des gérants. Nous n'aurons pas amour de l'argent. Il y a trop de chrétiens qui aiment trop l'argent. Il faut être libéré de cela. Et nous voyons que dans le temps où nous vivons, c'est de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une époque dans l'histoire du monde où l'homme était si riche? Non, hein? Aujourd'hui, on a tout. On a même trop. On jette des tonnes et des tonnes de manger. On jette de tout parce qu'on a de trop. Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu grec de la richesse. Et le jugement est très juste et très sévère. Payez comme elle a payé, et rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Pour l'écrira, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est clair, hein? C'est un principe de base. Ce qu'on sème, on moissonne. Si on ne sème pas, on ne peut pas moissonner. Et si on sème, on moissonne. Et autant la prostituée de Babylone s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » Salomon dit, « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil procède la chute. » Nous, chrétiens, même si Dieu nous a donné beaucoup, les millionnaires parmi nous ce soir, ne nous vantons pas de nos millions, parce que ce ne sont pas nos millions, c'est les millions de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est par la grâce que nous l'avons. C'est Dieu qui nous l'a donné. Je trouve ça pas mauvais, n'est-ce pas? Si on se rend compte, par exemple, que sa maison n'est pas, la maison n'est pas à nous, c'est la maison, ça appartient à Dieu et il nous la prête. Si on se rend compte de ça, mettons qu'il y a une fuite au toit. On va chez le propriétaire et on lui dit, Seigneur, il y a un trou dans ton toit. Et c'est à lui à nous aider, à nous conduire comment résoudre le problème. Ça nous enlève un fardeau énorme. N'est-ce pas, de savoir, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Moi, je suis le gérant. Formidable, ça. Et aussi, ça nous aide beaucoup à partager. Le monde n'aime pas partager, hein. Ce qui est à moi, est à moi. Et il n'y a pas trop de gens généreux dans le monde. Mais un chrétien est généreux parce que il sait très bien, ce n'est pas à lui. Il veut le partager avec tout le monde, le plus possible. Et cela, bien sûr, maintenant je parle d'argent, mais le principe est vrai pour tout. Pas seulement l'argent, le temps, les efforts, l'amour, tout. Nous partageons. Nous aimons donner. On est plus béni, dit la Bible, quand on donne que quand on reçoit. N'est-ce pas? Et c'est vrai aussi. J'ai une fois prêché ça, j'étais encore très jeune dans le ministère. J'étais pasteur d'une petite église pionnière à Lierre, vingtaine de kilomètres d'Anvers. Et nous avions une vieille sœur dans l'église, une vieille dame, elle venait de se convertir. Et elle était très très pauvre. Elle avait une toute petite pension. Elle était veuve. Et elle avait un fils handicapé à la maison qui demandait beaucoup de temps et de soins. Et cette femme, elle donnait tout ce qu'elle pouvait d'elle-même. Mais elle n'avait pas d'argent à donner. Elle n'arrivait pas à payer tout ce qu'elle devait payer. Et il m'arrive un dimanche à prêcher là-dessus qu'on est plus béni quand on donne que quand on reçoit, etc. Et j'ai mentionné, dans ce message, j'ai aussi parlé de la dîme. Pas une exigence, mais un principe biblique, pour illustrer que Dieu veut qu'on donne. Après le culte, on a la tasse de café. Et la petite sœur vient me trouver, je dis, elle est nouveau convertie. Elle me dit, pasteur, moi, je peux pas donner. À la fin du mois, il me reste plus rien. Et certainement pas donner la dîme. Moi, je me sentais tout mal à l'aise que j'avais prêché là-dessus. Hein. Je voulais pas la viser, mais elle était assez âgée. Moi, j'avais peut-être 23, 24 ans. Et je me sentais mal à l'aise. Alors, je savais pas quoi lui répondre. Alors, comment est-ce qu'un pasteur répond quand il ne sait pas comment répondre? Dieu vous bénisse, sœur. Alors, je lui ai dit, Dieu vous bénisse. Presque 2 mois passent, et un dimanche, elle arrive, avant le culte, et elle me demande si elle peut donner un témoignage à l'église. Elle n'avait jamais été sur l'estrade, elle n'avait jamais pris le micro, je me demande ce qu'elle allait dire, mais je pouvais difficilement la refuser. Alors on chante un chant, on prie un peu, on chante encore un chant, et puis elle vient devant. Et elle dit ceci. Il y a à peu près 2 mois, notre pasteur a prêché sur donner et la dîme et tout ça. Et après, je lui ai dit que moi je pouvais pas. J'avais pas les moyens. Je suis rentré chez moi, qu'elle dit, et j'ai réfléchi. Je me suis dit, je suis maintenant un enfant de Dieu. Si Dieu le veut, je dois le faire. Alors je vais quand même donner. Et elle dit, les 2-3 semaines après, j'ai mis plus en somme que je ne pouvais dans le collecte. Je me suis fait mal pour donner. Et puis, elle ouvre sa sacoche. Elle est sur l'estrade, elle ouvre sa sacoche. Et elle sort de sa sacoche une lettre. Elle dit, je voudrais vous lire la lettre que je viens de recevoir dans la semaine. C'était du ministère des pensions. Comme quoi, ils avaient constaté que, depuis qu'elle est pensionnée, on avait mal calculé sa pension et on avait toujours payé trop peu. Et alors que maintenant, ils allaient lui verser les arriérés, 200 000 francs. Je parle des années 60, hein? 200 000 francs, c'est encore beaucoup aujourd'hui, mais des années 60, je pense que sa pension était peut-être 2 000 francs par mois ou 3 000 francs par mois. Et maintenant, elle allait recevoir 200 000 francs. Alors, de nouveau, moi, je savais pas quoi dire. Hein? Je savais pas quoi dire. Bon, on termine le culte, café. Une autre sœur vient me trouver. Formidable, hein, ce témoignage, pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Formidable. Hein? Et elle me dit, moi aussi j'ai une petite pension. Est-ce que vous croyez que si moi je commence à donner aussi, vous suivez la pensée? Moi je ne savais pas quoi dire. Dieu vous bénisse. Mais vous n'allez pas la croire, hein? Elle a aussi une augmentation de sa pension. Pas autant que la première, mais si je vous dis ça, c'est pour confirmer. Ça m'a appris des leçons. J'ai d'abord avec la Volvo que je n'ai pas eue, et puis ces témoignages, ce sont des sœurs qui, une nouveau convertie. Mais qu'est-ce qu'elle m'a appris? Moi qui étais le pasteur, qu'est-ce qu'elle m'a appris une leçon? Et j'ai pas oublié ces leçons. Nous sommes bénis quand nous donnons. Si nous n'avons pas d'argent à donner, nous donnons ce que nous avons à donner. De notre temps, de notre amour, de notre amitié, nous donnons. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout ce que nous donnons, Dieu nous le remet. On ne va jamais s'appauvrir en donnant de soi-même et de ce qu'on possède dans le royaume de Dieu. Au contraire, on ne donne pas pour recevoir, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas une formule mathématique, vous donnez autant et Dieu vous donne le double ou le triple, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous a promis dans sa parole que si nous sommes fidèles, il pourvoira à tous nos besoins. C'est une promesse formidable. Il ne dit pas qu'il promet de pourvoir à tous nos désirs. Il se peut que vous désirez un Rolls-Royce, mais vous n'avez besoin qu'un deux chevaux. Hein? Il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Et combien de chrétiens peuvent témoigner que ça est vrai, n'est-ce pas? Nous pouvons témoigner, ça est vrai, et même plus, parce que souvent il donne plus que ce qu'on a besoin. Mais à Babylone, c'est l'orgueil et c'est l'arrogance. Je me suis enrichi, mes millions, etc. Et à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la pudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Je connais quelqu'un qui est millionnaire. Et quand il y a eu le crash là-haut, à la bourse, il y a 2008, quelque chose comme ça, cette personne m'a dit, en un jour, j'ai perdu plus de 10 000 euros. Ces actions qui sont diminuées. En un jour, dis-moi pas. Moi, j'ai rien perdu. Si on n'a rien, on peut rien perdre. Mais pour nous, nous avons une autre vue de cela. J'avais un bon ami qui était pasteur à Malines. Et il est maintenant depuis longtemps auprès du Seigneur, mais à un moment donné, on lui a téléphoné pour demander s'il pourrait faire un funérail, service de funérail. Quelqu'un lui a téléphoné, il ne connaissait pas cette personne, alors il a dit « je viens vous voir ». Il est allé les voir et il a compris que la personne qui était décédée ne fréquentait aucune église, mais était d'origine protestante. Et alors maintenant, la famille voulait qu'il soit enterré, donc que le funérail se fasse à l'église protestante. Quand il a su le nom du monsieur en question, il ne l'avait jamais rencontré, mais tout le monde à Malines connaissait ce monsieur. Il était l'homme le plus riche de la ville, un multimillionnaire. Il était connu. Alors, il a fait le service de funérailles, avec énormément de monde, beaucoup de gens de bien de la ville. Et après les funérailles, il y avait une réception. Café, je sais pas quoi. Et la famille avait invité le pasteur d'être là. Alors, il est là, et il me disait, il écoutait les entretiens. Et plusieurs personnes leur avaient dit, ils se parlaient entre eux, le décédé, il a laissé combien? Combien est-ce qu'il a laissé? Hein? Combien? Et alors, au moment donné, une de ces personnes vient au pasteur et il demande, « Pasteur, est-ce que vous savez combien il a laissé? » Le pasteur dit, « Oui, je sais, moi. » « Hein? » Il dit, toute la salle, silence. « Je sais combien il a laissé. » Tout. C'est juste, hein? On est arrivé nu dans ce monde, et quand on part, on ne peut rien avec. Il y a peut-être une petite exception, Mon épouse est partie au ciel il y a presque 5 ans. J'ai pas encore trouvé ces millions. Je me demande si on les a pas pris avec quand même. Non. Nous ne prenons rien avec. Ce n'est pas à nous. C'est au Seigneur. Mais ceux qui sont attachés à leur richesse. Oh, quelle souffrance ils ont s'ils perdent quelque chose. Si leurs affaires ne vont pas aussi bien qu'ils veulent, etc. Si leur monnaie dévalue. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Cinnamon, aromate, parfum de myrrhe, encens, vin, huile, fine farine, blé, bœuf, brebis, chevaux, chars, corps d'âme et corps et d'âme d'homme. Les fruits qu'ont désiré ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et ils diront, malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Ils s'écrient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient la poussière sur leur tête, ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil, ils criaient, disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Tout cela a aussi été prophétisé dans l'Ancien Testament. Nous avons ici l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jérémie écrivait dans un livre tous les malheurs que devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à ses rajas, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu attacheras une pierre, tu le jetteras dans l'Euphrate, ça c'est le fleuve de Babylone, et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Et puis pour terminer, le ciel se félicite et se réjouit de la chute de Babylone. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu est grâce, mais il est aussi justice. Nous méritons tous ce qu'arrive à Babylone. Si nous, chrétiens, nous n'allons pas encaisser ce que Babylone encaisse, c'est parce que nous avons demandé la grâce du Seigneur pour pardonner nos impudicités. Ceux qui ne le font pas, Dieu est juste. Et la justice exige une punition, n'est-ce pas? Nous évitons cette punition, pas parce que nous ne la méritons pas, mais parce que Dieu nous fait grâce.
Mais la grâce n'est jamais automatique. Il faut la demander. Et la grâce de Dieu, non seulement qu'elle n'est pas automatique, elle n'est pas inconditionnelle. La condition, c'est la repentance et la demande de pardon et la conversion et la consécration, etc. La sanctification, ce sont les conditions. Le monde ne demandera pas la grâce de Dieu, ne se repentira pas, ne se convertira pas. Alors, le monde attend la justice de Dieu. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus retrouvée. » Ésaïe dit exactement la même chose que l'Apocalypse. L'on n'entendra plus chez soi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par ces enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On contraste des pleurs et deuils des marchands de Babylone, des gens de Babylone. On contraste à cela la joie des enfants de Dieu en voyant que tout ce système corrompu, toute cette, entre guillemets, impudicité est ruinée, détruite pour toujours. La chute du capital de l'Antéchrist, du diable, Babylone la Grande, forteresse de l'Antéchrist, détruite, et il y a la joie dans le ciel. Amen. Nous pouvons déjà nous réjouir de ce qui va arriver. Et réfléchissons un instant, quand il y aura la joie au ciel, pour la chute, à cause de la chute de Babylone, nous serons déjà au ciel, nous allons nous aussi nous réjouir avec eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nouveau de votre attention.